Oui, on en a eu juste assez d'Angélique Kidjo pour nous donner l'envie d'en entendre plus. Elle peut reprendre absolument ce qu'elle veut, cette femme, et c'est toujours magnifique. Mais on a fait des parce que j'ai aussi très, très hâte d'entendre une spécialiste en orientation et mobilité au CIUS Mauricie, Centre du Québec. Elle est spécialiste notamment en orientation et mobilité en déficience visuelle. Et c'est Madame Anne Évrard. Bonjour, Madame Évrard.
Bonjour Madame Fay.
J'en vous remercie infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que on trouve qu'une spécialiste comme vous, qui travaillez notamment avec les tout-petits pour leur apprendre, à tout-petits qui vivent déjà avec la cécité, donc pour leur apprendre à faire leur marque, hein, à utiliser une canne blanche, à tout ça. Et nous, voyant, on se dit, mais comment fait-elle et comment font-ils? Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là, Madame Évrard?
Ben, écoutez, en fait, c'est sûr que ce qu'on essaie de proposer aux parents et puis à ces tout jeunes enfants, ce sont en effet des moyens pour qu'ils puissent explorer un petit peu leur environnement, qu'ils soient un petit peu plus sécurisés, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à les protéger, ces enfants qui voient mal ou qui voient pas du tout. Et donc, les services en orientation et mobilité essaient de donner des moyens, des petits trucs, des techniques pour qu'ils puissent en effet mieux contrôler ce qui se passe autour d'eux. Alors, c'est clair que quand on parle de déplacement, il faut d'abord s'orienter. Alors, l'orientation, c'est savoir où on est, où est-ce qu'on doit aller et comment on peut arriver. Puis, on va essayer de mettre en place toute une série de stratégies pour utiliser nos sens. Alors, si l'enfant est semi-voyant, ben, on va utiliser ce qui lui reste, en tout cas, comme vision pour lui donner des repères. Et c'est qui... peut souvent être le cas quand on intervient nous en mobilité, c'est que leur vision n'est vraiment pas assez suffisante pour qu'ils soient sécurisés dans un déplacement plus long. Donc, on va mettre en place des stratégies plus au niveau de l'audition. On écoute les échos, on écoute la tonalité, on essaie de s'orienter vers un bruit. On va aussi utiliser les pieds parce qu'on peut suivre un tapis pour pouvoir se rendre jusqu'à la cuisine. Oui. On peut même utiliser le nez pour entendre, pour sentir où se trouve le beau bouquet de fleurs dans le salon qu'on s'approche. La fenêtre qui est entrouverte, elle va donner du vent, mais va aussi peut-être entendre le bruit des autos. Donc, on va mettre en place et surtout essayer de stimuler le jeune à pouvoir percevoir toutes ces informations.
À partir de quel âge, madame, peut-on commencer à travailler, entre guillemets, avec un enfant pour la spatialisation?
Ça dépend vraiment un petit peu du développement de
l'enfant.
De l'enfant. Personnellement, j'ai commencé avec des tout-petits qui ne marchaient pas encore. Alors, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est vraiment les inciter justement à pouvoir percevoir cet environnement qui est au-delà de ce qu'on appelle l'espace brachial, donc au-delà de ce que la main peut toucher. Mais je vous dirais que mes interventions sont beaucoup plus régulières à partir du moment où l'enfant est capable d'effectuer des pas. On travaille en collaboration évidemment avec des physiothérapeutes là, au départ pour être sûr que l'équilibre est bon. Puis on ne donne pas la canne directement. Plutôt proposer une aide que j'appelle la pré-canne, qui est un espèce de substitut de la canne, où ça pourrait être simplement, vous savez, pour les petites filles, une petite poussette de poupée.
Oui.
Mais la pré-canne a l'avantage de pouvoir être vraiment analysée, étudiée pour que ce soit vraiment la largeur de l'enfant. Alors, il s'agit quoi? D'un cadre avec un rouleau qui est en bas, et l'enfant va faire rouler ce cadre devant lui, de sorte qu'il sera toujours protégé, non seulement de tout obstacle qui sera devant lui, mais aussi de toute dénivellation, parce que avec ce rouleau, il va sentir que ça peut descendre, qu'il y a quelque chose, donc il peut anticiper le danger.
Oui, parce que Dieu sait si, quand on a un enfant voyant, on a toujours peur qu'il se cogne, qu'il se bute à la table du salon et tout, mais avec un enfant non-voyant, enfin, c'est pire, quoi. Donc, j'imagine que vous travaillez à domicile, d'ailleurs, hein?
Alors, je travaille aussi bien à domicile que dans les CPE ou dans les garderies, et puis évidemment beaucoup à l'école. Mais vous savez, je voudrais reprendre la phrase d'un psychologue qui travaille à Québec et non-voyant lui-même, et qui avait présenté aux parents de l'Association québécoise des enfants handicapés visuels une phrase que j'ai adorée. Il a dit, vous savez, on n'a pas plus mal quand on ne voit pas que quand on voit. Donc, ce qu'il dit, c'est... oui, c'est sûr que ça peut surprendre, mais ça, on n'a pas, la douleur n'est pas plus grande.
Non.
Puis c'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre aux parents. Tout enfant qui voit va à un moment donné aussi, à un moment donné, se cogner.
Se cogner, exactement.
On va faire attention, c'est sûr qu'on ne va pas le mettre devant une voilée d'escalier, mais je veux dire, oui, l'enfant qui ne voit pas a le droit aussi, de temps en temps, de se faire un peu
absolument.
Mal. Il doit apprendre aussi. Donc, on va... Alors oui...
Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire.
La vulnérabilité, que les parents pensent que l'enfant est très vulnérable. Le tout, c'est de l'encourager, c'est sûr, de s'assurer quand même que c'est sécuritaire dans l'environnement. Mais moi, je suis entourée de parents qui comprennent. Et puis, l'effet aussi de les mettre en situation. On aime bien rencontrer les parents et puis leur mettre eux-mêmes le bandeau pour qu'ils comprennent c'est quoi un petit peu la perception qu'on peut...
Oui.
Qu'on essaie de travailler avec l'enfant, mais comment l'enfant peut percevoir. Puis, ça fait mieux comprendre aussi les choses.
D'ailleurs, vous me tendez une perche. Pardon. Excusez-moi, je me suis étouffée. Madame Évrard, vous me tendez une perche parce que la participation des parents... Bon, je voudrais d'abord préciser que vous êtes d'origine belge. Hein. Vous êtes arrivée ici il y a maintenant, quoi, une vingtaine d'années?
Ah, ça, c'est en 99.
D'accord. Et quand on a préparé cette émission-là, vous me disiez que vous aviez été vraiment touchée par le fait de voir les parents ici beaucoup plus présents qu'en Europe, hein, enfin, du moins de ce que vous aviez vu auparavant. Donc... C'est important, c'est essentiel aussi ça pour les enfants, pour leur développement, hein, que les parents soient au courant de ce qui se passe.
Non seulement qu'ils soient au courant, ça c'est clair, mais que leurs besoins viennent d'eux aussi, parce que c'est sûr que, vous savez, c'est ça, moi je suis plutôt jeune, donc j'ai commencé en 81 à travailler d'abord en Belgique, comme vous dites, c'était une institution spécialisée pour enfants déficients visuels. Donc en fait, les enfants arrivaient le lundi matin, repartaient le vendredi. On avait rarement des contacts réguliers avec les parents, c'était sur nous que les parents en fait remettaient toute cette valeur qui était importante, mais que nous, à l'époque, on ne se rendait même pas compte que l'éducation, ce n'était pas entre nos mains, c'était vraiment entre leurs mains aussi, évidemment. Ce que je me suis rendu compte en arrivant ici au Québec, mais c'est sûr qu'il y a aussi des évolutions, et en Belgique aussi, je peux vous dire qu'on a bien évolué depuis. L'implication des parents est
essentielle,
est essentielle. Donc, moi, la façon dont j'essaie de le faire, d'abord, c'est que ici, partout au Québec, dans tous les centres de réadaptation, on parle de plans d'intervention en réadaptation. Les parents sont présents, on essaie même d'avoir le jeune là aussi. On essaie de voir c'est quoi leurs besoins. C'est clair que au départ, pour des parents, imaginez que leur petit enfant aveugle va devoir traverser une rue, c'est l'horreur.
Bien sûr.
Donc, on essaie de les rassurer, on leur explique comment on va s'y prendre. Et puis, si pour eux, ils peuvent participer aux rencontres que j'ai avec le jeune, peut-être pas systématiquement, mais en tout cas, moyen régulier, tant mieux. Et sinon, moi, je veux dire que j'adore l'outil de la petite caméra vidéo. Quand je sais que l'enfant est déjà plus sûr, je me permets de filmer. Puis après, on peut
regarder
avec
sûr.
Les parents et j'explique un petit peu c'est quoi les facteurs qui
bien
vont
sûr.
Aider l'enfant à pouvoir décider à quel moment il peut traverser la rue.
Madame Évrard, figurez-vous que nous venons déjà de passer 8 minutes ensemble. On n'a plus que 10 secondes. Vous savez quoi? Je veux vous réinviter pour qu'on parle des personnes âgées. D'accord?
Oui.
Je vous souhaite une belle journée, Madame Évrard.
Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Bonne journée.